En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Les aventuriers de l'impossible.
Avec Jacques Pradel et Didier Van Cauwelaert.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle incursion dans le monde de l'impossible avec Didier Van Cauwelaert. Et aujourd'hui, nous allons consacrer toute notre émission à un personnage hors du commun, le mot n'est pas trop fort, une femme, une Française extraordinaire. Et Didier, je vous propose de nous la présenter en quelques mots tout de suite.
Décorée 6 fois par la France, l'Angleterre et les États-Unis pour son action dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, née Yvonne Beauvais, est considérée par certains comme la Jeanne d'Arc du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire. Génie stratégique, héroïsme, humour frondeur, faculté de voyance prouvée par ses écrits de jeunesse, pouvoir d'ubiquité attesté par des dizaines de personnes déclarant l'avoir vue en plusieurs endroits au même moment, elle embarrasse autant les historiens que les autorités ecclésiastiques. En la faisant chevalier de la Légion d'honneur le 22 juillet 1945, le général de Gaulle se découvrit devant elle. Le képi sur le cœur, il lui déclara « Madame, je vous remercie au nom de la France ». Des témoins affirment qu'il ajouta à mi-voix, sur un ton d'ironie bourrue, « J'espère que vous n'êtes pas à Londres en même temps en train de vous faire décorer par Churchill ». 25 ans plus tard, le Vatican met fin à son procès de béatification, classant le dossier sans suite, avec une interdiction formelle de publier le moindre ouvrage sur elle. Que s'est-il passé ? Controverse sur le caractère miraculeux de tant d'événements incroyables ayant jalonné sa vie ? Volonté de jeter un voile de silence sur ses pouvoirs, ses prédictions, les trahisons qu'elle a subies, ou bien sur des secrets liés à l'Allemagne nazie et à la résistance française, secrets dont elle aurait eu connaissance de l'intérieur par ses facultés d'ubiquité ou son simple engagement de patriote.
Alors voilà, évidemment, une présentation qui pose beaucoup de questions. On est en face d'un personnage qui a existé réellement.
Que j'ai découvert.
Que vous avez découvert d'ailleurs ?
On a tout fait pour la faire disparaître de l'histoire. Et l'Église, c'est l'Église qui a voulu cela. Ouais. En travaillant pour le Dictionnaire de l'Impossible sur Padre Pio, ouais, j'ai découvert qu'il avait un pendant féminin. C'est-à-dire cette femme qui a eu tous ses pouvoirs, cette action extraordinaire. Très peu de documents existaient, mais on en parlera tout à l'heure, 13 livres écrits sur elle, contre l'avis de l'Église, par l'abbé Laurentin. Et Jean-Christian Petit-Fils est un des rares historiens qui a parlé d'elle.
Oui, comment vous avez découvert? Alors celle que... Il y a de l'humour aussi dans l'Église catholique. Certains prélats l'ont appelée Madre Pia. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes historien, et vous aussi, vous n'êtes pas un historien spécialisé dans l'impossible. Vous êtes un historien qui avait l'habitude de travailler sur des documents, de consulter des témoignages et de vous faire évidemment une idée objective sur les histoires que vous racontez.
Oui, tout à fait. Alors, moi j'ai découvert cette vie extraordinaire d'Yvonne Beauvais, donc Yvonne aimée de Jésus, à travers les ouvrages nombreux du père Laurentin, qui a eu en main les pièces du procès de béatification. Il a eu une autorisation spéciale de les publier, et c'est donc très intéressant, évidemment, parce qu'on a là, on touche là les témoignages multiples de médecins, de religieux, de religieuses sur des phénomènes déroutants qui nous conduisent presque au merveilleux, mais c'est pas du merveilleux, et sur cette personnalité exceptionnelle de Mère Yvonne Aimée de Jésus. C'est une femme qui a vécu, et je crois que ça c'est capital, on ne peut pas dissocier ces prodiges, c'est-à-dire ces phénomènes de stigmate, de bilocation, de transverbération, c'est-à-dire un cœur lumineux qui apparaît brusquement,
et
comme Catherine de Gênes.
Bilocation,
c'est ça, c'est la capacité de se trouver en deux endroits ou trois endroits à la fois. Elle a vraiment eu tous les phénomènes physiques du mysticisme. Alors, ça étonne énormément, évidemment, ceux qui abordent cette question, ceux qui connaissent un peu les procès de béatification ou de sanctification. Les phénomènes physiques du mysticisme sont connus, et ce sont des phénomènes, le Padre Pio en particulier, ce sont des phénomènes identiques à ceux qui ont affecté cette religion. Mais on ne peut pas dissocier sa vie religieuse, son amour profond de Jésus, et elle le vit de façon intime et totale à la suite, à 9 ans, d'un petit texte qu'elle signe, une sorte de pacte avec son sang, en disant « Je me donne à toi entièrement pour toujours, je voudrai toujours ce que tu voudras, je ne vivrai que pour toi, je te supplie de me faire devenir une très grande sainte, une martyre, je veux sauver beaucoup d'âmes.
Bon, » Elle écrit ça à 9 ans, avec son sang.
Ouais. Voilà. 2 jours après sa première communion.
Alors, on va revenir à vous dans un instant, parce que je parlais tout à l'heure de documents historiques, et il y a des documents historiques qui prouvent incontestablement que on n'est pas dans le fantasme ou dans la rumeur. Et je voudrais dire peut-être à Didier Van Kovelaert de nous rappeler en quelques mots comment cette jeune fille, donc qui a 9 ans, écrit ce pacte avec son sang, va à 15 ans vouloir devenir religieuse, et ensuite elle va se mettre au service des pauvres.
Alors ses parents disent non à 15 ans, hein, c'est trop tôt.
Oui.
Alors
elle veut entrer dans les ordres à 15 ans.
Et ben, ce qu'elle veut, c'est, quand elle dit sauver les âmes, c'est aussi sauver les vivants et les pauvres, leur donner à manger. Et alors là, elle développe une énergie incroyable. Elle, pour trouver de l'argent pour les pauvres, pour aller les nourrir, elle organise des tombolas, des concerts. Il y a une énergie chez cette jeune fille qui est absolument sublime. C'est Isabella Gianni, toute jeune. Et après, la maladie et les nombreuses maladies mortelles qu'elle a eues, dont on parlera tout à l'heure, on l'ont beaucoup fait grossir et ont changé son apparence. Mais on a une incroyable énergie de bonté, d'efficacité, un humour formidable. Et elle est costaud au point de vue caractère, faut pas l'emmerder.
Alors elle est costaud au point de vue caractère, elle n'est pas du tout costaud au point de vue de la santé, et on en parlera tout à l'heure avec d'autres interlocuteurs, parce qu'on a contacté, grâce à vous d'ailleurs, Didier Van Kovelaert, un médecin qui s'est penché aussi sur cet aspect-là de la vie de cette femme.
Sur l'impossibilité en fait à vivre avec toutes ces maladies-là, et pourtant elle a vécu... Cette énergie extraordinaire qu'elle a ensuite développée pendant la guerre, pendant la résistance, en cachant des parachutistes anglais dans son couvent réquisitionné par les Allemands, en cachant des Juifs, le général Audibert, chef de la résistance de l'Ouest. Enfin, incroyable activité, et elle était très très fine. Maline, pourrait-on dire, entre guillemets. Et puis, ce sens extraordinaire de la construction de sa vie, tel qu'en témoigne ce qu'elle écrit comme prédiction dans ses carnets dès sa jeunesse.
Alors nous allons venir à ces prédictions et à ces documents historiques qui prouvent que ces prédictions ont bien été faites et qu'elles étaient extraordinaires au sens propre du terme, dans un instant, après une pause.
RTL, les aventuriers de l'impossible.
Avec Didier Van Kovelaert, avec aujourd'hui Jean-Christian Petit-Fils, historien, qui s'est très longuement penché sur ce personnage, qui est un personnage historique d'ailleurs, Didier Van Kovelaert.
C'est une héroïne de guerre.
Cette femme est une
décorée
grande résistance.
Six fois, dont la décoration de la Légion d'honneur par le général de Gaulle, c'est une chef de guerre aussi.
Alors, je voudrais que maintenant, on commence à aligner ensemble, Didier Van Kovelaert, les pièces du dossier. Alors, la première pièce à étudier, c'est une prédiction que va faire cette femme jeune à l'époque, puisqu'on est on est dans les années
1922.
Elle est donc
Elle a 20
jeune,
ans, 21 ans.
Voilà. Et elle va... Alors, que va-t-elle dire ?
Eh bien, en 1922, elle interrompt une conversation autour d'elle pour annoncer que la France, en 1939, sera envahie par des hommes verts.
Elle dit ça comme ça, quoi.
Oui. Ce sont pas des martiens.
C'est pas ça qu'elle pense, mais elle sait pas exactement
c'est parce
ce qu'elle
dit, alors. Et personne ne comprend. Ouais. Parce qu'à l'époque, l'armée allemande n'avait pas encore adopté l'uniforme vert.
Mais pardonnez-moi, est-ce qu'elle a dit « il va y avoir la guerre » et les Allemands seront verts ou...
Elle annonce que la France, elle sait qu'il va y avoir la guerre parce que elle l'a déjà écrit. Jésus lui est apparu en 1922 pour lui dire, c'est le témoignage d'Yvonne Aimé, pour lui Une croix apparaît à côté de lui, il dit « Veux-tu la porter ?» Ça aidera à abréger la guerre que va connaître la France en 1939. Donc Yvonne Aimé écrit cela dans ses carnets que l'on détient aujourd'hui.
D'accord. Et un peu plus tard, donc, arrive cette scène.
Elle annonce donc les hommes verts et des cylindres hein, qui tombent sur Paris. Donc elle décrit cette prédiction qui n'est bien sûr pas comprise sur le moment. Ouais. Il faut ajouter qu'Yvonne Aimé ne prend pas elle-même au sérieux ses prédictions. Choses qui viennent, mais ça paraît tellement énorme que... Et puis, ça ne l'intéresse pas, elle a autre chose à faire. Ouais. Simplement, elle se sent obligée de les noter. Elle ne sait pas pourquoi. Et puis, elle passe à autre chose. Elle va aider les pauvres. Elle est en prière. Et très vite, elle va s'engager dans la guerre. Mais alors, elle écrit une autre scène encore plus extraordinaire.
Alors, donc, là, nous sommes en 1922. Quelques années plus tard, Jean-Christian Petit-Fils, elle va faire une autre prédiction. Mais là, cette fois-ci, elle va dire « j'ai rêvé ». Oui. J'ai rêvé de quelque chose.
Il faut dire qu'elle en a fait beaucoup plus que deux exemples que nous avons cités. Mais dans ses carnets, le 25 mars 1929, elle écrit, elle est toute jeune religieuse, « Je me suis vue devant la clinique, donc de Malétroit, avec beaucoup de religieuses autour de moi. Cela semblait être un jour de fête, il faisait beau. J'avais sur la poitrine épinglé 4 ou 5 médailles, dont la Légion d'honneur. » J'étais au milieu de religieuses et semblais être leur mère. Un grand officier vint vers moi me saluer. Une autre religieuse portait aussi une médaille et une voix toute jeune disait derrière moi « Écoute bien, Yvonne Aimé, car plus tard tu te souviendras de cela et ce sera ta force. »
Alors ça, c'est 1929.
25 mars 1929, on a les carnets donc, et ça fait partie du procès de béatification. Et le 7 août 1949, le général Audibert, qui était un grand officier, il n'y avait pas que le général de Gaulle qui était de grande taille, mais le général de Gaulle aussi l'a décoré, eh bien, lui a remis une médaille, l'a félicité, et donc elle avait en effet, et on a la photo. On a la photo où elle porte les cinq médailles,
dont la Légion d'honneur,
la Légion d'honneur,
remise par
la médaille de la résistance, la médaille de la reconnaissance française, la King's Medal. Donc elle a tout.
Médaille de la reine d'Angleterre.
Ah oui, voilà, d'Angleterre, et États-Unis, elle a tout.
Et sur cette photo, nous voyons une autre religieuse qui porte une croix aussi, qui a reçu une décoration. Donc c'est une prédiction absolument hallucinante.
20 ans avant.
Et, évidemment, tout à fait solide, parce que là, on a une certitude. Et
alors, en tant qu'historien, Jean-Christian Petit-Fils, ça vous gêne, nous en tournions, ce genre de choses ou pas ?
Alors, en tant qu'historien, l'historien doit accepter les faits. Simplement, on est devant quelque chose de déroutant et on est devant un cas d'une femme qui a des visions, qui est une grande mystique. Et il faut accepter le fait. Après, les interprétations sont libres, les choix religieux aussi, mais il y a des faits, et les faits sont pas niables.
Je vais me faire l'avocat du diable, ce que Didier Van Kevelaert acceptera certainement.
On a parlé des
faux carnets d'Hitler. Est-ce qu'on est sûr que ce texte écrit en 1929 a bien été écrit en 1929 et pas postérieurement?
Non, tout à fait. Elle a écrit sur un journal dès l'âge de 13 ans. Et puis son confesseur, le père Crété, son directeur spirituel, qui est un jésuite, lui a demandé expressément d'écrire ses rêves. Et c'est donc à la suite de cette demande qu'elle obéit. Elle a des prémonitions et elle les écrit. Et c'est grâce à cela que nous voyons.
Donc il y a des témoins de l'époque qui ont vu consulter ces carnets.
Absolument.
Et il n'y a pas le moindre doute sur l'authenticité. Alors, autre question, Didier Van Kevelaert. Il y a également d'autres phénomènes, et je voudrais qu'on prenne vraiment 2 minutes. Après, on entendra un document exceptionnel, puisqu'il s'agit d'un témoin qu'il a vu à un endroit alors qu'elle se trouvait à un autre. Bon, on donnera les détails tout à l'heure. Mais là, maintenant, la question. Il y a des phénomènes de stigmates, on l'a dit très rapidement. Il y a même... On a pensé, là je me mets dans la peau des religieux, on a pensé qu'elle était assaillie par le diable, parce que vous avez également retrouvé des témoignages absolument hallucinants qui ont eu des dizaines de témoins.
Il y a par exemple ce jour de 1941 où elle est en train de confectionner avec une vingtaine de personnes des colis pour les Parisiens affamés. Donc, on est en Bretagne, près de Malétroit, et y a les évêques, il y a l'évêque, il y a plein de personnes civiles, les gens qui sont là, de bonne volonté. Et tout à coup, je cite après l'ensemble de leurs témoignages, ces personnes voient ces vêtements arrachés tout seuls, des espèces d'estafilades qui apparaissent sur son corps, et il y a un médecin qui laissera aussi son témoignage, il y a près de 80
coupures
estafilades. Et le lendemain, elle était en pleine forme, dit-on, dans son couvent, en train de s'agiter comme d'habitude avec son humour habituel. Est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que c'est le démon? Est-ce que c'est... On ne sait pas, mais là encore, comme disait l'historien, eh bien, ce sont des faits.
Voilà. Et les faits sont têtus, comme chacun sait. On va faire une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite après. Alors, avec Jean-Christian Petit-Fils et vous, Didier Van Covert, on va parler de la période de la guerre, qu'on comprenne le rôle qu'elle a joué. Et puis ensuite, on passera alors à l'impossible. À l'impossible avec ce témoignage auquel je
suis. Oui, on était juste à l'apéritif. Là.
Voilà. Alors là, attachez vos ceintures. Ça n'est pas fini.
Les aventuriers de l'impossible.
RTL.
Avec Didier Van Covelaert, avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils qui s'est penché à la fois sur l'existence, la vie, l'existence historique de cette femme et qui a pu analyser également des documents historiques dont on a parlé tout à l'heure. Alors, Didier Van Covelaert, ce qui serait bien, ça serait de reprendre maintenant l'existence de cette femme au moment de la guerre qui lui a été prédite et qu'elle a donc elle-même annoncée à cause de ses, je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, de ses visions ou de ses confidences divines.
Notée depuis 1922.
Ouais. Alors elle a continué, évidemment, elle est devenue religieuse, elle est la supérieure d'un couvent des Augustines hospitalières de Malétroit. Et quand la guerre commence, elle sait aussi, vous pouvez nous le rappeler, que pratiquement tout ce qui va se passer.
Elle sait qu'elle s'engagera tout de suite dans la résistance, elle sait qu'elle sera dénoncée, qu'elle sera arrêtée et qu'elle sera libérée dans des conditions assez étonnantes dont on parlera tout à l'heure.
Bon, ouais.
Le couvent est réquisitionné par les Allemands, sous l'occupation, tout de suite, pour en faire un hôpital réservé évidemment aux combattants allemands. Et dans cet hôpital, elle va réussir à cacher des parachutistes anglais, des juifs, le général Audibert, chef de la résistance de l'Ouest, au nez et à la barbe de l'occupant. Comment a-t-elle fait? Il me semble que c'est aussi extraordinaire peut-être que ses pouvoirs de bilocation et tout ce qui lui est arrivé. C'est une héroïne qui n'a peur de rien, qui en plus, personne n'a peur autour d'elle. Les autres religieuses sont entraînées par ce courant de confiance, d'énergie et d'humour aussi. Elle est très drôle, elle a peur de rien et prête à tout.
Voilà.
Et donc... Elle avait prévenu celui qui est son fils spirituel, le père Paul Labutte, qu'on entendra tout à l'heure. Elle lui avait dit « Je serai arrêté, je serai dénoncé, je serai arrêté, il ne faudra surtout pas bouger. Je vous ferai prévenir, mais vous ne ferez rien, vous attendrez. » Et elle est dénoncée, elle est arrêtée. C'est le 16 février 1943 à Paris, alors qu'elle savait qu'elle serait arrêtée à Paris, mais elle y est quand même allée pour une mission qui ne pouvait pas attendre. Mmh. Et là, elle fait prévenir son réseau par un message codé.
Oui. Mmh.
Je suis chez Tante Germaine, Germain, les Allemands, bien sûr.
Ouais.
Et là, le père Labutte part à Paris, tout de suite, pour essayer, il ne sait pas dans quelle prison elle est, pour avoir des nouvelles.
Ouais.
Et là, il arrive à la gare, il prend le métro, et là se passe cette chose extraordinaire.
Alors, on va tout de suite entendre ce témoignage que nous avons retrouvé de l'abbé Paul Labutte, parce qu'il est le fils spirituel d'Yvonne Aimé de Malétroit, c'est un homme d'église également, et il se rend d'ailleurs avec sa maman à la gare Montparnasse
pour prendre
le métro.
Parce que sa maman, quand il lui dit « Mais où tu vas ?»« Je vais à Paris. »« Oh, ça tombe bien, je viens aussi parce qu'on va voir notre cousine à Pantin. » Alors le voilà flanqué de sa maman alors qu'il a vraiment autre chose à faire que d'aller faire la visite de famille. Il ne dit rien à la mère qui ne sait même pas qu'il est dans la résistance.
Et ce qu'il raconte maintenant était véritablement exceptionnel. Ça se passe de commentaires, on en parlera après. Écoutons l'abbé Paul Labutte raconter ce qui se passe dans la rame de métro dans laquelle il vient de monter à la station Montparnasse.
Alors je me suis trouvé dans le métro à côté d'Yvonne Aimé, habillé en civil. Je tenais la colonne pour me donner une contenance. Et tout joyeux, je lui dis, ça y est, vous êtes libéré. Elle me répond avec un air, elle lève les yeux, comme elle était plus petite que moi, elle lève les yeux avec un air de douleur, oh là là, de détresse. Elle dit, non, je ne suis pas libéré. En ce moment, je suis à la torture. Alors dans un éclair, j'ai compris qu'elle était à la fois dans la prison et dans le métro. Et le métro a continué de rouler. Nous n'avons pas eu le temps d'échanger d'autres paroles. Je sentais que les gens nous regardaient un peu. Et arrivé, je crois, à d'enfer Rochereau, sans me dire rien, sans me dire au revoir, sans rien, elle me quitte. Elle descend. Moi, je reste dans... Hein, et je l'ai vue à travers la vitre, se retournant vers moi, et me jetant un regard de détresse infinie. Je l'ai suivi du regard, et au moment où la voiture repartait, je l'ai vu qu'il se mettait dans la file de sortie, mais qui disparaissait, devenu invisible, avant d'être entré sous le couloir.
Alors là, je me retourne à nouveau vers Jean-Christian Petit-Fils. On sait de façon catégorique que le jour où elle apparaît dans le métro à ce garçon, à cet homme, elle est effectivement prisonnière de la Gestapo.
Elle est arrêtée par la Gestapo. Et l'histoire continue, puisque en fait, le père Labutte retrouve au métro Église de Pantin Yvonne Aimé et qui lui dit prie pour moi, si tu ne pries pas assez, on m'embarque ce soir en Allemagne.
Ouais.
Et alors le même jour, ouais, il la retrouve, va à l'Oasis qui était le lieu des religieuses, enfin l'établissement à Paris des religieuses.
Où elle avait son bureau en fait.
Où il avait son bureau.
Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, bon, là on pourrait dire qu'on a fumé la moquette, que ce prêtre imagine choses. Mais on a quand même le témoignage de son tortionnaire à la Gestapo, qui était un Français, qui travaillait pour la Gestapo, qui l'a torturé de manière très très brutale et qui déclarera après à son procès, par moment on pouvait lui faire ce qu'on voulait, c'est comme si elle n'était pas là.
Alors, où elle était ? Eh bien, l'abbé Paul Labutte va nous le dire. Il est là où Jean-Christian Petit-Fils nous le disait. Il est au bureau
d'Yvonne Aimé. Et il a prié, comme elle lui a demandé, pour qu'elle ne soit pas déportée.
Voilà. Et là, eh bien, écoutez la suite.
À un moment donné, j'ai entendu un bruit. Le bruit que fait, c'est l'image qui s'est mise à l'esprit, l'image d'un cavalier botté qui saute de cheval. Les deux, puis paf, je me retourne, Yvonne Aimé était là au pied, à l'angle du bureau, les portes fermées et tout. J'étais surpris. Alors je l'ai saisi par les poignets. Je sais pas pourquoi. Alors je la tenais dur. Elle s'était dit, laissez-moi. Et puis elle reculait, on a renversé. On a déplacé des fauteuils, enfin, elle se débattait. Si bien que des sœurs qui étaient en dessus se demandaient qu'est-ce qui se passait. Puis petit à petit, elle s'est apaisée. Elle a regardé autour d'elle, elle m'a dit, où suis-je ici? Elle regarde, mais je suis dans mon bureau. Et puis elle me regarde, mais c'est toi, Paul, qui es ici? Ah, je comprends maintenant. C'est mon bon ange qui m'a ramené.
Alors, nous allons faire tout de suite une nouvelle pause. On retrouve Didier Van Kovelaert, Jean-Christian Petit-Fils, et puis également cette femme à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, Marie-France Cazot. Elle a connu Yvonne Aimé enfant, et Yvonne Aimé lui a dit, alors que elle, Marie-France Cazot, avait 5 ans, quelque chose d'extraordinaire qu'elle a pu vérifier par la suite.
Les aventuriers de l'impossible, Jacques Pradel, Didier Van Kovelaert.
Sur RTL.
Et avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils, et dans un petit instant, Marie-France Cazot pour un témoignage exceptionnel qui a rencontré, comme je le disais tout à l'heure avant la pause, Yvonne Aimé de Malétroit à l'âge de 5 ans. On s'est quitté, on a quitté le témoignage du père Labutte tout à l'heure qui disait, mais elle m'a dit, c'est mon ange gardien ou c'est mon ange qui m'a fait évader. Ça vous a fait réagir, Jean-Christian Petit-Fils?
Oui, parce que en août 1922, elle écrit dans ses carnets, je me vis aussi en prison et un ange venait me délivrer. Donc c'est dans ses prémonitions, dans ses visions. Un ange comme l'ange qui a libéré Saint-Pierre aussi de prison dans les Actes des Apôtres. Là, il y a une libération miraculeuse.
Parce que là, on n'est pas dans la bilocation, on est dans une espèce de téléportation, puisqu'elle disparaît de la prison du Cherche-Midi alors que les autres montent dans le convoi pour partir en Allemagne, pour la déportation. Il manque quelqu'un, c'est elle. Elle a disparu. Et là, elle est revenue ne trouve pas d'autre mot, par téléportation grâce à son ange, que si on veut reprendre sa terminologie, ça je n'en sais rien.
C'est très
mais
gênant.
Hein, les faits
c'est
sont
tout
là.
Ce que vous dites, là.
Ben, c'est à la fois extraordinaire, ouais. ça interpelle sur plein de choses, et puis on aimerait avoir des témoignages qui disent non, c'est faux, mais tout concorde.
Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Didier Van Covelhart, en quelques mots, ce qui se passe après? Parce que là, elle a été arrêtée en 43. Ça se situe, cet épisode-là qu'on vient d'évoquer.
Février 43.
43. Alors, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la libération de la France?
Disons que, elle va continuer tout son boulot pour sa congrégation, voyager énormément, se dévouer pour les pauvres et
elle
tout.
Elle n'est jamais réattrapée par les Allemands, quoi. Elle leur échappe jusqu'à... Elle échappe aux Allemands.
Bon. Elle continue. Ouais. Le général Audibert, qu'elle continue à cacher, au nez à la barbe des occupants, la saluera en l'appelant mon général, ce qui énervera beaucoup les autorités ecclésiastiques.
Il y a peut-être de l'humour, juste.
Oui, mais c'était une chef de guerre et c'était un hommage de militaire. Ouais. Mais revenons, si vous le voulez, à cette journée de 43, parce que là, il s'est passé quelque chose que personne ne connaissait et que par le plus grand des hasards, entre guillemets, je découvre. Tout ce qu'on vient de raconter, moi, je tombe par terre quand je trouve ces documents.
Je vous comprends.
Et j'en parle à Marie-France Cazot, qui est une amie infirmière en retraite. Et je lui dis, j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas. Est-ce que tu connais peut-être Yvonne Aimé de Malétroit? Et là, elle me dit, ah ben oui, je l'ai connue quand j'étais enfant. Et elle m'a dit, par rapport à mon père, quelque chose de formidable.
Eh bien alors, si vous voulez bien, elle est en ligne, hein, on va la prendre. Ben voilà. Comme ça, vous allez pouvoir la saluer. Bonjour Marie-France Cazot.
Bonjour. Oui, j'ai la voix un peu cassée parce que j'ai une trachéite, comme avait certainement sœur Yvonne Aimé très souvent. Voilà, j'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer sœur Yvonne Aimé en 1945, mon père, en 44, pardon, ouais. Dans la congrégation des sœurs des Augustines à Tréguier. Et sœur Yvonne Aimé est revenue se ressourcer auprès de la maison mère de Tréguier lorsque la mère supérieure de l'époque nous avait promis à mes parents de les cacher. Ouais. Et parce que papa avait tué des Allemands et était parti après rejoindre De Gaulle en Angleterre.
Oui, et votre papa, pardonnez-moi, était marin.
Mon père
était
marin.
Officier de marine.
Voilà, et il est parti, donc il a réussi à passer en zone libre, je devais avoir 3-4 mois, et maman était dans une détresse pas possible, parce que évidemment Pétain avait enlevé, il était condamné à mort, et maman n'ayant pas de famille, avait demandé aux religieuses de s'occuper de nous en cas de déportation pour elle-même.
D'accord, et quand vous arrivez à Tréguier, en fait vous avez 5 ans.
Voilà, je suis née à Mini-Tréguier, sur la terre de Saint-Yves, c'est le cas de le dire.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Racontez-nous
ce
que vous dites.
Sœur Yvonne Aimé vient à Tréguier. Bon, ma tante, que j'appelais ma tante sœur, mais qui n'était pas ma tante que de cœur, nous fait venir. Mes sœurs étaient demi-pensionnaires là, parce qu'il fallait les nourrir. Et je me rappelle très bien de sœur Yvonne Aimé me prenant dans les bras. Elle m'a prise dans les bras et elle m'a dit « Je connais ton papa ». Moi, je ne connaissais pas mon père. Pour moi, c'était une photo et c'était rien de plus, un papa. Et elle m'a dit « Je connais ton papa ». Et je me rappelle bien de l'odeur de cette religieuse qui me poursuit plus de 70 ans bientôt après. J'ai toujours son odeur.
Mais connaître, quand elle dit « je connais ton papa », c'est qu'en fait, dis-nous dans quelles conditions.
Voilà, parce que papa, après, des années après, nous l'a raconté, parce que nous étions quand même une famille intéressée par tout croyante, mais intéressée par beaucoup de choses étranges, et grâce à sœur Yvonne Aimé de Jésus, parce que les Augustines étaient très, très, très prises par l'histoire étrange de sœur Yvonne. Et donc, papa me dit, un soir, j'étais à bord de l'Éridan, nous étions 3 ou 4 marins sur le pont, en pleine guerre, évidemment, et tout d'un coup, dans une lumière pas possible, en pleine nuit, il faisait nuit, il voit une lumière et il reconnaît une Augustine.
À cause de sa tenue, donc. Oui.
Mais et il a reconnu, et il ne la connaissait pas, mais il a vu que c'était une Augustine, et comme il m'a dit, son visage était tout blanc, elle avait des yeux bleu marine que j'ai vus très bien dans la nuit, elle a seulement dit « Courage les enfants, vive la France, priez !» Elle était, et mon père m'a dit après, ses lèvres n'ont pas bougé, mais les trois marins qui étaient avec lui ont entendu la même chose, et mais ne voyant pas du tout ses lèvres bouger ni rien, ils se sont dit, mais quelle chose étrange. Et voilà, mon père a été témoigné parce que Mère Saint-Jean de la Croix lui a demandé de témoigner. Elle lui a dit, Edouard, il faut témoigner
pour le procès de béatification.
Mal étroit.
Voilà. Et ce, simplement, il est important de préciser la date. Le jour de cette apparition, c'est le
16 février 1943.
C'est le 16 février, le même jour où Yvonne Aimé est torturée à la Gestapo, apparaît au Père Labutte et apparaît en même temps sur ce bateau.
Breton qui était parti pour vraiment, il devait y avoir quelques Finistériens des Côtes d'Armor, des Côtes du Nord à l'époque. Et des gens certainement du Morbihan, du Maquis de Saint-Marcel qui étaient partis aussi.
Alors si on vous suit, Marie-France Cazot, donc pour la bonne compréhension de l'histoire, je vais vous raconter ce que j'ai compris, vous allez me dire si je me trompe ou pas.
Je vous en prie.
Vous arrivez à 5 ans dans ce couvent, elle vous prend, cette femme vous prend dans ses bras, on est en 1944, et là elle vous dit... je connais ton papa, alors que vous, quand vous êtes, vous aviez 6 mois quand votre père est parti comme officier de marine pour se battre en fait. Bon. Et est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là également, il t'en parlera. Je connais ton papa,
non.
Il t'en parlera ou pas ?
Non, simplement. Ça, je ne m'en souviens absolument pas.
Bon,
je me souviens de son odeur. Je me souviens que toute la peut-être 1 ou 2 heures pour un enfant, ça peut paraître long. Je me suis promenée l'après-midi dans le jardin avec tout le monde autour d'elle.
Oui.
Je me souviens de ma main et ma main redevient petite depuis toujours quand je repense à Sœur Yvonne Aimée de Jésus. Parce que Sœur Yvonne Aimée de Jésus a été dans ma vie jusqu'à maintenant.
Oui.
Jusqu'à maintenant, grâce aux Augustines de Trier, dont j'étais très proche, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le couvent soit fermé, jusqu'à ce que la dernière religieuse meure.
Écoutez,
dont Mère Saint-Jean de la Croix.
Je vous remercie beaucoup de ce témoignage, Marie-France Cazot.
J'ai eu la chance aussi de voir les petits Jésus de Malétroit, mais ça, c'est une autre histoire.
Alors, c'est une autre histoire, mais on va peut-être en parler tout à l'heure avec Didier Van Kovelaert. Merci, merci infiniment, en tout cas, d'avoir rappelé ce vieux souvenir, mais ce souvenir
ce
marquant.
Hein, comme,
et ce très beau souvenir. Merci infiniment, madame.
Au revoir.
RTL. Les aventuriers de l'impossible.
Alors maintenant, Didier Van Kovelaert, il faut que nous entendions un autre témoignage, ou plus exactement une analyse de quelqu'un qui connaît particulièrement bien cette affaire. Et vous avez beaucoup tenu à ce que le docteur Maéo participe à notre émission.
Le docteur Patrick Maéo, qui a écrit avec l'abbé René Laurentin, auteur de 13 livres sur Yvonne Aimée de Jésus, qui avait bravé, rappelons-le, l'interdiction de Vatican d'écrire sur elle.
Ce cas a dérangé l'Église au point que...
Le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, en 1960, arrête le procès de béatification en disant « Trop de miracles, ça suffit ». C'est la version officielle. Après, on peut discuter des vrais raison.
Mais pas pour
à ce
des
moment-là,
raisons de supercherie. Enfin,
ah non,
je veux dire avec les,
ah non, trop, trop
les
de miracles. Le dossier est trop important.
Il y a trop de miracles.
Ça suffit.
Voilà,
ouais. Ce dossier aujourd'hui, il y a 60 000 documents, il y a plus de 4 000 pages. Je ne pense pas qu'il soit déjà de retour à Rome, car il y a une certaine ouverture grâce à tout le travail de l'abbé Laurentin,
d'accord,
qu'il a fait sous sa seule responsabilité, a bien souligné le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, lorsqu'il a fermé les yeux sur la volonté de l'abbé Laurentin de témoigner sur cette femme extraordinaire, avec le docteur Mayo.
Bonjour docteur Patrick Mayo.
Oui, bonjour monsieur Pradel.
Alors, écoutez, on est suspendu à ce que vous allez nous dire parce que, évidemment, on n'a pas évoqué le dixième de la vie extrêmement riche de cette femme, mais on n'a pas beaucoup insisté jusqu'à présent sur le fait qu'au-delà de tous ces phénomènes extraordinaires qui l'ont entourée toute sa vie, cette femme était d'une santé... Pour le moins, on peut dire précaire. En fait, elle aurait dû mourir 10 fois, non ? Quel est votre avis de médecin sur ce cas ?
Eh ben, le médecin, effectivement, reste un peu tout à fait ébahi, tout à fait déconcerté devant le cas d'Yvan Aimé. Parce que, au fond, c'est une jeune fille qui, à 21 ans, a eu une paratyphoïde qui aurait dû la faire mourir. Et qui, ensuite, a eu une scarlatine. Donc, elle a eu une succession de maladies qui, à l'époque... ne se soignait pas, et dont elle a réchappé, j'allais dire presque miraculeusement à chaque fois. Ouais. Et c'est un long parcours, parce qu'ensuite, elle va avoir un syndrome néphrotique, c'est-à-dire une insuffisance rénale chronique, qui à l'époque ne se soignait pas par dialyse, donc, et qui est donc prouvée bactériologiquement par des analyses d'urine, des taux d'albuminurie très élevés, c'est-à-dire des taux d'albumine dans les urines. Ouais. Et ensuite, nous avons dans son parcours, dans son cursus, une tuberculose pulmonaire prouvée bactériologiquement, dont elle réchappe. Ouais. Puis, enfin, je ne dirai pas des meilleurs, parce que c'est une longue succession.
Ouais. Elle va avoir un fibrome dont elle va être opérée, je crois, après la guerre.
Un fibrome de l'utérus et enfin et un cancer du sein.
Un cancer du sein.
Elle ne va pas mourir de son cancer du sein. Elle a son cancer du sein en 1949 et elle va mourir brutalement le soir du 3 février 1951 au fond d'une hémorragie cérébrale foudroyante qui est la conséquence de son hypertension artérielle qu'elle aurait eue tout au long de sa vie.
Ouais, et Didier Van Cauwelaert raconte dans son livre, dans le Dictionnaire de l'impossible, que lorsqu'elle meurt ce jour-là, elle avait prévu, malgré cet état de santé extrêmement précaire, Didier, d'aller en Afrique.
Tout à fait.
Elle ne s'arrêtait jamais.
Elle ne voulait pas s'arrêter.
Voilà. Et alors j'allais dire, le mystère médical d'Yvonne Aimé continue même en post-mortem, puisque son procès de béatification, elle meurt donc en février 51, son procès de béatification commence dès 1957, c'est-à-dire 6 ans plus tard. Oui. Et quand l'Église demande, quand il y a un procès de béatification, la reconnaissance du corps.
Donc on a exhumé le corps.
Et quand donc elle est décédée, je suis désolé de rentrer dans des détails macabres, mais quand on meurt d'une hémorragie cérébrale foudroyante, le cerveau donc est inondé de sang et la dépouille se décompose très rapidement. Donc au moment de l'exhumation, qui a lieu le 25 mars 1957, les médecins présents pense qu'on va trouver donc un corps en décomposition ou un corps qu'on ne va pas...
Même pas reconnaître,
Et, stupéfaction, le corps est retrouvé tout à fait intact. Donc le mystère d'Yvan Aimé continue en post-mortem. Et ça, la médecine ne peut pas l'expliquer alors qu'elle est enterrée dans le cimetière de sa communauté et que toutes les sœurs qui sont autour, leur corps est corrompu.
Et en plus, le cercueil était, je crois, rempli d'eau.
Et le cercueil était rempli d'eau, et tous les vêtements qu'il a recouvrés étaient complètement charpis.
On manque vraiment de qualificatifs là, pour parler de tout ça. Alors, docteur, je ne vais pas vous cacher les vérités, on a une minute d'antenne devant nous, donc on est très en retard. Mais je ne voudrais pas vous laisser avant que vous puissiez nous confirmer, parce que vous avez fait avec l'abbé Laurentin une longue, longue enquête, évidemment, sur la vie de cette femme.
60 000 documents d'archives,
Oui, mais vous avez répertorié, on parlait tout à l'heure de ce qui est le plus extraordinaire, quelqu'un qu'on voit à 2, voire 3 endroits à la fois le même jour, à la même heure, on a dû mal à accepter même cette idée. Vous avez compté combien de ce qu'on appelle les bilocations ?
Alors, dans le dossier qui a été publié d'ailleurs sur les bilocations d'Yvan Aimé, nous avons recensé 151 cas, dont une dizaine sont attestés, où on peut dire qu'Yvonne Aimé était aux deux endroits, à deux endroits différents, ouais, au même moment.
Avec une dizaine donc d'événements,
de cas,
où
oui,
on a tous les témoins visuels, etc. Jean-Christian Petit-Fils voulait ajouter quelque chose sur ce chapitre-là,
oui,
exactement.
À propos de l'histoire du sous-marin et qu'on a retrouvé, enfin, du 28 novembre, c'est-à-dire novembre 42.
28 novembre 42,
c'est
oui,
ça, après donc,
de la flotte.
Le lendemain du sabotage de la flotte de Toulon,
oui,
semble-t-il, parce qu'on n'a pas une certitude absolue à cet égard, il faut reconnaître, Yvonne Aimé serait apparu aux 11 marins et aurait aidé ce sous-marin qui se trouvait piégé sous des bâtiments à sortir. La chose extraordinaire, c'est qu'à Malétroit, on a retrouvé dans sa cellule du linge trempé d'eau de mer.
Oui, voilà. Donc, les témoins affirment avoir... ils ont vu ces draps. Elle était sur son lit, ils ont vu les draps se tremper.
Ouais.
Et je pense que c'est le père Lapute, je crois, je ne sais plus, qui a goûté, ou enfin, je ne sais plus pourquoi.
Ouais.
Enfin, bref,
on s'est aperçu que c'était de l'eau de mer.
C'était de l'eau salée. Ouais. Ouais.
Écoutez, docteur, je vous remercie beaucoup de ce témoignage. On est vraiment obligé de se quitter. On va mettre sur RTL.fr, Didier Van Cauwelaert, toutes les références possibles et imaginables.
Et les films.
Le témoignage du père Lapute qu'on a entendu
voilà,
tout à l'heure.
On dispose.
Voilà, il y a des documents. Elle a été interviewée par Léon Zitrone, enfin bon, etc. Genre, j'en passe des meilleurs.
Oui, parce qu'au fond, ce que Didier Van Cauwelaert dit, c'est que effectivement, sa cause de béatification a été arrêtée en 60 par le cardinal Ottaviani, qui était alors professeur.
Vous souhaitez que ça puisse peut-être repartir un jour ou l'autre.
Mais tout à fait, parce que sa cause a été arrêtée en même temps qu'une certaine Faustina Kowalska en 60.
Mmh.
Et vous savez bien qu'un certain Karol Wojtyla, élu pape,
oui,
a donc dédouané Faustina.
Mmh.
Dimanche dernier, c'était donc le dimanche de la Divine Miséricorde, invocation de Faustina.
Mmh.
Donc, on espère peut-être qu'Yvonne Aimé sera dédouané un jour.
Voilà. Merci infiniment. Merci Didier, oui, de
Mais la même Yvonne Aimé, dont on a passé en revue une partie de tous les prodiges, de toutes les actions de courage, aussi bien que les actions qui défient le sens commun, a dit un jour à son ami, le père Lapute, qu'on a entendu tout à l'heure, un soir, un peu de fatigue, « Tu sais, mon pauvre Polo, j'étais la personne la moins prédisposée à toutes ces choses-là. »
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Christian Petit-Fils.
Merci.
Merci Didier, à demain.
À demain.
Il me reste à vous donner le programme de demain. Demain, dans Les Aventuriers, nous vous emmenons sur la piste des chasseurs de fantômes.